Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Au chapitre 14, verset 26, et je tiens à mentionner, vous avez à l'intérieur de votre dépliant l'info 911, vous avez à l'intérieur un inséré qui résume la prédication. Je le mentionne régulièrement, je vous encourage à, si vous n'êtes pas des preneurs de notes à l'arrière, vous avez des questions de mise en application. Mais je voulais mentionner que ce matin, je m'adapte un petit peu au repas du Seigneur, tout ça. On va s'en tenir au premier point simplement. Donc, c'est vraiment une innovation. Je vais prêcher un sermon à un point, 26 sous-points. D'accord? C'est une blague. 3-4 sous-points. Là. La semaine prochaine, Alexandre va nous conduire dans le psaume. Et puis, la semaine suivante, on continue. Alors, je vais revenir. J'aurai l'opportunité de revenir sur ça. Puis, un des sujets que je voulais aborder là, il y a vraiment une continuité avec le deuxième voyage missionnaire de Paul. Alors, on donnera la suite à ce moment-là. Je vais quand même vous lire le passage qui est assez long pour nous le placer dans notre esprit. Et donc, on est dans Actes 14, verset 26. Et je vais lire jusqu'au chapitre 15, verset 31. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, parlant de Paul et Barnabas, leur équipe probablement, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, ces deux frères-là reviennent à l'Église qui les a envoyés en mission. D'accord? C'est un rapport missionnaire. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, c'est-à-dire qui avaient cru en Jésus-Christ, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur leur cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, le frère de Jésus, c'est pas l'apôtre Jacques. Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi, toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. On va se courber ensemble dans un mot de prière. L'Éternel, notre Dieu, nous venons dans ta présence ce matin pour entendre ta parole, Seigneur. Pour comprendre ta parole, Seigneur. Et pour qu'elle vienne s'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies. Ma prière est toute simple, Père, mets ta main sur ma bouche et sur mon cœur, afin que je prêche fidèlement tes Écritures, Seigneur. Sans les détourner d'aucune manière et sans négliger de mettre en garde ou d'enseigner les hommes de quoi que ce soit que tu dises dans ta parole. Deuxièmement, Père, ma prière est que tu viennes rencontrer chaque personne dans cette salle ce matin. Là où chacun est rendu dans son cheminement, qu'il croit en toi ou non, qu'il te connaisse personnellement, Seigneur Jésus, ou non, qu'ils aient vécu cette expérience de foi, de recevoir ce cœur nouveau, d'avoir le cœur purifié de leurs péchés, de recevoir ton esprit ou non, Seigneur. Viens parler au cœur ce matin et que cela vienne de toi, de ton esprit. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. OK, alors on a deux gars, Paul et Barnabas, qui reviennent d'un premier voyage missionnaire. C'est un énorme road trip qui vient de terminer en Gogoun. D'accord? J'ai essayé d'évaluer vite, vite comme ça. C'est plus de 700 kilomètres que ces hommes-là ont marché avec des super souliers de l'époque. Parce qu'ils avaient à cœur d'aller annoncer l'Évangile, d'aller annoncer la parole. Deux voyages en bateau, 700 kilomètres à pied en plus des voyages dans des navires. Et ces deux hommes-là sont tellement contents de revenir à l'Église qui les a envoyés, comme on a envoyé Julie, Jessica cet été, comme des gens vont avec Gibec, comme des gens partent en mission, comme on a envoyé Hugo et Lynn aller implanter une église. Ces gens-là sont en train de revenir et ils sont tellement heureux de pouvoir compter partout tout ce que Dieu a fait. Parce qu'écoutez, en quelques mois, il y a littéralement des centaines de personnes. Des centaines de personnes qui ont entendu parler de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et dont les cœurs se sont ouverts. Ce n'est pas tout le monde qui a été ouvert. D'accord? Les disciples ont reçu aussi quelques roches, parfois, ont été laissés pour compte comme s'ils étaient morts et on les a abandonnés là, croyant qu'ils étaient morts. C'est loin d'être la majorité des gens qui ont ouvert leur cœur à l'Évangile. La majorité des gens, en fait, ont méprisé leur message, se disant qu'un Dieu qui vient mourir sur la croix pour tes péchés, c'est proprement ridicule comme concept. mais littéralement des centaines de personnes ont ouvert leur cœur à l'Évangile, Dieu venant se manifester à eux, et c'est vraiment une grâce qui vient de Dieu, toutes ces conversions. Dieu a fait des miracles à travers leurs mains, mais le miracle permanent qui a été fait, ce sont toutes ces centaines de personnes qui sont venues à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et ces gars-là sont tout simplement emballés de pouvoir revenir, raconter à l'Église qui les a envoyés, à toutes les églises qu'ils vont visiter en cours de route, combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon d'ouvrir et d'ouvrir l'Évangile aux nations, de se faire connaître aux nations. Des gens de toutes les nations qu'ils ont rencontrés se convertissent à l'Évangile, croient dans ce merveilleux message de l'Évangile de Jésus-Christ. Tous ces gens-là qui ont placé leur foi en Jésus-Christ savent dorénavant qu'ils sont en paix avec Dieu, que Dieu les aime et qu'il va prendre soin d'eux. Et ça prend un sens particulier lorsqu'on le place dans ce contexte-là. Si vous êtes avec nous depuis les dernières semaines à travers le livre des Actes, on a vu combien les persécutions étaient farouches, c'était difficile. Mais ces gens-là, et là je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Pour vous, c'est une religion, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ. Comprenez que ces gens-là restent dans une ville où ils vont être persécutés pour leur foi, ils vont être maltraités pour leur foi, mais dans cette rencontre avec la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ils ont trouvé une paix, une espérance, une foi qui dépasse de loin toutes les persécutions qu'ils pourraient subir. Et ces gens-là sont dans une joie profonde parce qu'ils se savent en paix avec Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ont rencontré leur Créateur et que leur Créateur est en paix avec eux, parce qu'ils savent qu'ils ont été sauvés par pure grâce et que donc leur espérance d'être en communion avec Dieu, sous la gouverne de Dieu, est dirigée par Dieu, est solide, elle ne repose pas sur leur propre œuvre, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ça a transformé complètement toutes ces vies-là. C'est sans compter tous les bouleversements dans leur éthique, leur style de vie, leur manière de vie, de vivre ce que l'Évangile amène comme reconstruction de vie brisée. Mais premièrement, c'est cette grâce de savoir que je ne suis plus un pèlerin isolé sur la terre ou entouré d'amis aveugles qui ne savent pas plus que moi où est-ce qu'ils vont être dans 50, 60 ans. Qui ne savent pas sur quel principe bâtir leur vie, mais de savoir que maintenant ils ont un Père au ciel qui veille sur eux et qui les aime tendrement. Ces gars-là sont excités de raconter tout ça. Alors, ils reviennent à Antioche. Antioche, c'est l'église mère qui les a envoyés. Puis, ils sont emballés, ils sont en train de raconter tout cela, raconter combien Dieu était bon en ouvrant une large porte. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez la différence entre le moment où Dieu ouvre la porte pour l'Évangile puis lorsque la porte n'est pas ouverte. Tu donnes le même message, tu dis la même chose, tu as exactement le même discours. Tu parles du même Jésus qui a fait les mêmes œuvres, la même histoire. Et quand Dieu ouvre la porte, l'Évangile entre. Quand Dieu n'ouvre pas la porte, l'Évangile n'entre pas. Mais eux, ils ont vu de leurs yeux. Ils arrivent au milieu de nations païennes qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Certains d'entre eux étaient des craignants Dieu, grand nombre d'entre eux ne l'étaient pas. Et leur cœur s'ouvre parce qu'ils entendent parler de ce Dieu merveilleux. Et puis, ils sont fascinés de voir que Dieu s'est servi d'eux. Quand tu sais que Dieu se sert de toi, tu vois que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de ton ami, dans la vie d'un collègue de travail, dans la vie de quelqu'un à l'école, puis il se sert d'une parole que tu apportes, puis cette parole-là est une lumière, apporte la paix, la consolation. Quelle joie, n'est-ce pas? Essayez d'imaginer leur joie de revenir. Il y a des centaines de personnes qui ont été bouleversées par l'Évangile. Ces gars-là se regardent dans le miroir et ils disent « Mais qu'est-ce qu'il a fait? À quoi il pensait en servant de nous? » Parce qu'ils ont la difficulté à concevoir que c'est à travers Dieu, à travers eux que Dieu a fait toute cette œuvre-là. Et donc, ils se réjouissent de voir que Dieu s'est servi d'eux, conscients qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs, pareil comme tout le monde. Et pendant qu'ils sont en train de raconter ça, dans toute cette période-là, les gens sont en train de se réjouir de tout ce qui se passe partout, à travers les nations, ces églises qui sont implantées, des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu d'Israël parfois et qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ, bien, il y a des gens qui arrivent de Judée, des docteurs, des gens qui prétendent connaître la parole de Dieu, qui viennent pour enseigner. Et voici ce qu'ils enseignent. Ils disent « C'est super, c'est vraiment super qu'il y ait des gens de toutes les nations de la terre qui se convertissent à Jésus-Christ, c'est génial, mais... » Comprenez bien ceci, si tous ces hommes-là, on parle des hommes ici, circoncision, si tous ces hommes-là qui ont cru en Jésus-Christ ne se font pas circoncire comme c'est la loi prescrite dans l'Ancien Testament pour les Juifs, ils ne peuvent être sauvés. C'est énorme comme déclaration. L'enjeu pour l'Évangile, la compréhension de l'Évangile qui est ici, est absolument énorme de conséquences. Et donc, ces hommes-là viennent là et puis ils disent, non, en quelque sorte, ce qu'ils sont en train de dire et la question qu'ils soulèvent, c'est est-ce qu'on doit se convertir au judaïsme pour après ça croire dans l'Évangile? En gros, on pourrait le dire comme ça. Dans leur esprit à eux, pour devenir chrétien, ça prenait une conversion au judaïsme, premièrement, parce que c'est leur expérience à eux, vous comprenez? Entre autres, c'est pour ça. Ce sont des gens qui viennent probablement, eux aussi, des sectes pharisiennes qui se sont converties à l'Évangile. Et donc, leur expérience à eux, ben regarde, je suis juif, je pratiquais tout ça, j'ai découvert qui est mon Messie. Après tout, c'est leur Messie. Jésus, est-ce que ce n'est pas le Messie des Juifs? C'est le Messie des Juifs, il est annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, si tu veux que ce soit ton Messie, deviens juif. Ce sera ton Messie à toi aussi. Ce sera ton Sauveur à toi aussi. Ce sera ton Seigneur. La question donc qui est soulevée, c'est est-ce qu'il faut se convertir au judaïsme pour devenir chrétien? Est-ce qu'il faut adopter toutes les lois de l'Ancien Testament pour devenir ensuite chrétien? La question est énorme. La question est énorme. Et donc, il y a un débat qui est soulevé parce que clairement, dans leur compréhension de l'Évangile, Paul et Barnabas disent non, les gars, vous dérapez complètement. Il y a quelque chose d'essentiel de l'Évangile que vous n'avez pas saisi. Vous êtes en train de pervertir l'Évangile. Vous êtes en train d'annoncer un autre Évangile que l'Évangile que nous, on a annoncé. Et donc, il s'oppose fermement à tout cela et il est décidé de porter le débat, d'aller porter la question à Jérusalem. Ce matin, nous allons voir ensemble que Dieu s'est donné un peuple nouveau par un acte de grâce pur et simple. C'est cette grâce-là qui nous unit et qui nous instruit. Dieu s'est donné un peuple nouveau simplement par une œuvre de grâce. Et on va résumer ça à une question ce matin. Je vais formuler comme ça, ça ne fera peut-être pas beaucoup de sens au début. Pour devenir chrétien ou parce que je suis chrétien? Ces hommes qui venaient probablement d'un background, d'un passé pharisien, croyaient qu'il fallait se convertir au judaïsme. Si vous allez un petit peu plus loin, le débat va se transporter à Jérusalem. Et à Jérusalem, ça devient encore un petit peu plus clair ce que ces hommes-là croyaient. Si vous allez au verset, chapitre 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, si à Antioche, il était simplement question de la circoncision et on aurait pu croire que c'était juste, bon, une identification, je ne sais pas c'est quoi. Non, le fond de leur pensée est plus vaste que ça. Tout homme qui se convertit, qui croit en Jésus-Christ, doit observer toute la loi de l'Ancien Testament. Sans ça, il ne peut pas être sauvé. Sans ça, il ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Est-ce qu'il faut adopter toutes les lois de l'Ancien Testament pour devenir chrétien? La question a l'air simple pour nous aujourd'hui, puisque ça a été débattu il y a quand même quelques décennies de ça, et ça a été bien réglé là-bas. Ça va continuer à courir dans les églises de l'époque. L'apôtre Paul, entre autres, dans sa lettre aux Galates, adresse cette question-là sous un angle théologique beaucoup plus développé, avec toutes ses implications, ses ramifications théologiques. Donc, ça va continuer à courir, mais pour nous, c'est comme clair. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui on a demandé d'observer toutes les lois de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a des hommes ici qu'on doit envoyer se faire une petite chirurgie plastique rapide lorsque vous décidez de croire en Jésus? La question est comme simple parce qu'elle est réglée depuis tellement longtemps. En même temps, je crois que ça adresse une question qui est encore à propos pour notre cœur, pour notre époque à nous. Et bien comprendre ce qui se passe ici, c'est mieux comprendre l'Évangile. Et se dire qu'il n'y a pas de problème avec le fait de retourner sous la loi de l'Ancien Testament, c'est probablement manifesté que je n'ai jamais saisi véritablement l'Évangile. Donc, la question demeure extrêmement importante. À Jérusalem, le débat recommence. Et il y a ces hommes-là qui ont, comme je le disais, un passé pharisien. Donc, c'était des gens très, très attachés à la loi. Et ils nous ont dit qu'ils ont cru en Jésus, ce qui va Ce qui va se manifester dans les temps qui vont suivre, c'est que certains d'entre eux sont probablement aussi des faux docteurs qui peut-être ont cru, croire ou je ne sais pas trop quoi, mais qui finalement non, vont revenir à la loi, à la loi, à la loi et vont s'opposer à l'enseignement des apôtres. Est-ce que les croyants de toutes les nations doivent observer toute la loi de l'Ancien Testament et se faire circoncire pour être sauvés? Ça voulait dire, si quelqu'un acceptait cette idée-là, qu'on devait retourner dans l'Ancien Testament, puis il n'y a comme pas de fin à la question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer toute la pratique des sacrifices? Est-ce que nous, on devrait avoir un voyage annuel à Jérusalem pour pouvoir aller offrir des sacrifices afin d'être pardonné ou comme commémoration de ce que Jésus a accompli? Est-ce qu'on est tenu de faire ça? Est-ce qu'on doit être soumis à cette loi-là? J'ai essayé de le mettre dans une expression un peu plus contemporaine. C'est un peu comme si devenir chrétien, c'est adopter le style juif. Je peux-tu le dire comme ça? C'est un peu comme si devenir chrétien, c'est adopter le style juif. Le style chrétien, c'est le style juif plus Jésus. Ça marche-tu, ça? Le style chrétien, dans l'esprit de ces gens-là, c'est le style juif plus Jésus. Moi, je suis déjà bien parti, c'est évident. J'ai déjà ma kippa. Bio. Full cuir, rien de synthétique. Kippa progressive en plus. Est-ce que le style chrétien, c'est le style juif plus Jésus? Pour ces hommes-là, ça semble être le cas. Voyez-vous, essayez de vous mettre dans la peau de ces gens-là. Ils sont là et puis ils regardent des gens qui arrivent de toutes les nations, qui arrivent d'un peu partout, avec un style de vie. Et quand je parle de style de vie, je sais que la question est plus sur la loi, mais c'est qu'il y a cet enjeu-là. Voyez-vous, ces gens-là cherchent à observer la loi de Dieu et ça, ça a des implications éthiques dans leur vie. Ça affecte leur manière de vivre, leur manière de se comporter, les choix qu'ils font. Ça a des implications énormes. Si vraiment tu honores la loi de l'Ancien Testament, franchement, tu es quelqu'un de bien. Et là, ils voient des gens arriver qui sont habillés n'importe comment, qui mangent n'importe comment, qui vivent n'importe comment, qui ont toutes sortes de pratiques, à peu près n'importe quoi, qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et ces gars-là sont en train de regarder ces gens-là puis ils se disent, « Mais voyons donc, ça n'a aucun bon sens. » Je veux dire, l'Église, ça va être quoi? Ça va être n'importe quoi. Il faut que ces gens-là deviennent comme nous. Il faut qu'ils deviennent comme nous pour pouvoir prétendre avoir Jésus pour Messie, pour Sauveur. Et donc, même si l'angle semble être cette question de la loi, puis est-ce qu'il doit y avoir cette observation de la loi, il faut être un peu plus large et comprendre que pour eux, c'était plus large que ça. C'est tout un style de vie, c'est toute une manière de vivre, de manger, de parler, de fonctionner, de s'habiller. C'était tout ça, incluant la loi. Alors ces gars-là se disent, mais ça n'a pas d'allure, il faut que ces gens-là deviennent comme nous pour être sauvés, autrement ils ne peuvent pas être sauvés. Dieu a montré aux Juifs comment être sauvés, comment vivre, il faut qu'ils deviennent comme nous pour être sauvés. Et c'est vraiment génial de voir dans ce passage-là, à travers l'argument que Pierre fait, qu'encore une fois c'est Dieu qui répond aux grandes questions difficiles. Ce que Pierre va faire en relatant l'histoire, en expliquant l'ordre des choses, comment ça s'est passé, Pierre est en train de dire, je pense que ce n'est pas un débat si difficile que ça, les gars, parce que je pense que Dieu nous a déjà donné la réponse. Par ses interventions, par la manière qu'il est intervenu, je crois que Dieu a déjà répondu à cette question-là. Regardez avec moi les versets 7 et suivants, Actes 15, 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que depuis longtemps, que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Verset 8, c'est celui-là qui m'intéresse. « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Pierre est en train de dire, écoutez, on peut réfléchir sur la question à savoir, un chrétien, ça a de l'air de quoi? C'est quoi le style chrétien? On peut débattre de ça si vous voulez. Mais la question à savoir, s'il faut adopter le style juif, puis après ça, on va pouvoir ajouter Jésus ou vice-versa comme vous voudrez, il me semble que Dieu a déjà répondu à la question. Et là, Pierre a pu s'étendre. Hein? On a quelques phrases, mais Pierre a pu s'étendre pour rappeler comment lui-même avait dans l'esprit de dire « Wow, attends un peu, je ne rentre pas dans la maison de monde qui vivent comme ça, qui ont de l'air de ça, qui croient dans ça. Moi, je n'irai pas dans cette maison-là. » Vous vous rappelez hein, la vision? Et Pierre lui-même était de ceux qui disaient « No way, écoute, ils feront du ménage dans leur vie, après ça, j'irai manger avec eux. » Ils se convertiront pour commencer avant que j'entre en communion avec ces gens-là. Il n'est pas question que moi, j'aille vers eux. Et Pierre est simplement en train de dire, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a tordu le bras, je me suis rendu, je me suis mis à prêcher l'Évangile. Bang! Deuxième Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont convertis. Juste là, ils ont cru. Le style de vie n'avait pas beaucoup changé. Et donc, Pierre est en train de dire, c'est une opération chirurgicale au cœur que Dieu est venu faire. Avant même de changer quoi que ce soit dans leur manière de vivre, leur manière d'agir, leur style de vie, les lois qu'ils observent. Dieu a décidé de les sauver simplement sur la base de leur foi. Ils ne s'étaient pas convertis au judaïsme. Alors les frères, je crois que Dieu a déjà répondu à cette question-là avant nous, et Dieu nous a précédés, comme il le fait constamment depuis le début du livre des Actes. Nous voyons Dieu intervenir avant pour conduire son Église dans la vérité. C'est ce que Christ a fait à ce moment-là par son esprit, en venant sauver ces gens avant même qu'on puisse commencer à mettre des comités sur place pour dire OK, c'est quoi le processus? Qu'est-ce qu'ils doivent observer? On va leur donner des cours, un an sur le judaïsme. Ils ont compris Jésus, mais lorsqu'ils sauront appliquer toutes les lois, vous comprenez? Dieu les a devancés. Bang, ils ont sauvé. Puis il dit, soyons simplement intelligents pour discerner le mouvement de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Paul souligne le fait que Dieu a sauvé ces gens-là avant qu'ils aient l'air de gens pieux. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Si je le mets en français courant, Dieu t'a choisi avant que tu aies du style à ses yeux. Si ce n'est pas encore clair, Dieu ne t'a jamais choisi pour ton style de vie, pour ta manière d'être, parce qu'il a dit, « Wow, man, celle-là, je veux l'avoir dans mon équipe. » Dieu est venu vers toi, il a fait les premiers pas vers toi, il est venu vers toi avant que tu aies du style à ses yeux. Et ça a été le cas pour tous les êtres humains. Dans le passage que je lisais au début du service ce matin, il y avait cette idée que Dieu ne regarde non pas à ce qui frappe les yeux, mais regarde au cœur. Et voyez-vous, en ceci, tous les êtres humains sur terre, nous sommes exactement sur un pied d'égalité, juifs, non-juifs, des gens débauchés, impies, n'importe quoi, tout ce que vous voudrez, des gens avec une belle petite vie rangée, des gens qui font juste courroyer les clubs, puis toutes sortes d'autres clubs aussi, peu importe. Dans ce sens-là, on est tous sur le même pied d'égalité. Parce que Dieu voit les cœurs, et Dieu sait que nous sommes tous pécheurs. Dieu sait, au fond, nous sommes des êtres pécheurs, rebelles. Et nous avons tous des milliers de zones dans notre vie que nous ne voudrions pas qu'ils soient dévoilées à la face de Dieu, à la face du monde. Nous sommes tous des pécheurs. Et Pierre est en train de dire ici, simplement, Dieu t'a choisi, mon ami, avant que tu aies du style à ses yeux. Avant que tu aies de l'air de quelqu'un de bien, Dieu t'a choisi. Il est simplement en train de leur annoncer encore une fois l'Évangile, en leur disant, voici la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est que nous sommes sauvés, nous sommes purifiés en plaçant notre foi en Jésus-Christ, pas parce qu'on a adopté un style de vie qui nous rend acceptable à Dieu. Alors, si tu viens à l'Église en espérant faire du ménage dans ta vie pour rendre ta vie acceptable à Dieu, c'est peine perdue. Le standard que tu poursuis est un standard inatteignable sur le plan humain. Tu n'y arriveras tout simplement pas. Parce que le standard, c'est Dieu. Ce n'est pas que tu ne peux pas avoir un peu de bonne volonté et tu ne peux pas essayer de mettre de l'ordre dans ta vie. Je veux dire, tout le monde, lorsqu'on souffre assez, on est capable de se prendre un peu en main et mettre un peu d'ordre dans notre vie. Puis on va chercher des bons principes dans la parole pour mettre un peu plus d'ordre dans notre vie. Je pense à des jeunes. Je pense aux jeunes. Souvent, un débat que vous avez par rapport au baptême, par exemple, c'est toute cette question de dire, ma vie n'est pas encore assez bien pour que je me fasse baptiser. Tu n'as pas compris l'Évangile? Ma vie n'est pas encore assez bien pour que je me fasse baptiser, moi, après 24 années de vie chrétienne. Tout à l'heure, en arrière, j'étais en train de confesser mes péchés à Dieu. Ma vie n'est pas assez bien encore. Mais sa vie à lui, la vie de Jésus-Christ, est assez bien depuis le début. Et sa mort et sa résurrection. Ainsi, lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu n'as pas besoin de fitter dans le moule pour être un bon petit chrétien, pour pouvoir placer ta foi en lui puis te faire baptiser. Ce que tu as besoin, c'est de reconnaître justement que tu ne pourras jamais y arriver par toi-même. Simplement de tourner vers Christ et dire, « Seigneur Jésus, il y a juste toi qui peux faire la différence dans ma vie. Me donner un cœur pur. Comment je peux avoir un cœur pur? Chaque jour, je suis confronté à l'impureté de mon cœur. Par mes méchancetés, mes mensonges, mon hypocrisie, mes prétentions, ma rébellion, mes impiétés, mes convoitises charnelles, mon égoïsme. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous choisit avant que nous ayons du style à ses yeux. Et Dieu ne nous choisit pas et ne nous appelle pas pour que nous adoptions le style chrétien. Il n'y en a pas de style chrétien. Si je tiens à définir un style ce matin, je vais dire c'est le style Jésus. Ça fait plus cool encore, hein? Tu s'en vas à l'école, tu dis, moi j'ai le style Jésus. Tu sais, comme les gougounes, les robes, tout le kit. Non, le style Jésus, c'est le style cœur nouveau. Transplantation cardiaque. Tu as un cœur de pierre, tu es rebelle. Tu es rebelle et suivre la loi de Dieu, c'est comme ça te tue. C'est normal, t'es mort. Spirituellement, c'est ça. Ton cœur ne peut pas répondre à la parole de Dieu. Ton cœur ne peut pas dire, je veux, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Ton cœur n'est pas au rythme de la parole de Dieu. La crise cardiaque est venue, ça fait longtemps. Parce que spirituellement, il y a cette mort qui est en toi. Augustin parlait dans un autre langage, de cette greffe que seul Dieu peut faire pour venir te donner ce cœur nouveau. Et voyez-vous, c'est le seul style chrétien. C'est le style Jésus. Un cœur nouveau. Et à partir de là, je lis les Écritures puis je laisse Dieu m'instruire. Je place ma foi en Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai un cœur mort, un cœur de pierre, profondément rebelle à la parole de Dieu. Je crie à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi. Accorde-moi le pardon de mes péchés. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. Et Dieu vient et il opère dans ta vie une chirurgie plastique, une chirurgie extraordinaire, une chirurgie cardiaque en fait. Il te donne un cœur nouveau qui se met à battre suivant le cœur de Dieu. En des termes plus techniques, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi et puis il y a un éveil qui se passe à la volonté de Dieu. Il y a une sensibilité à la parole de Dieu. Il y a un désir de dire, j'ai besoin de marcher dans cette voie-là, pas dans une autre voie. Et puis ensuite de ça, tu laisses l'Évangile t'instruire, tu laisses l'Évangile te guider, tu laisses la parole de Dieu te guider. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Ancien Testament? On va le lire parce qu'il y a tellement de sagesse, il y a tellement de sainteté, il y a tellement de droiture. Tu lis ces lettres-là et tu dis, OK, je ne suis peut-être pas obligé d'aller à Jérusalem pour mes vacances l'été prochain, mais tableau, j'ai vu que Dieu est saint. Et là, ça s'applique dans ta vie, le Saint-Esprit. Qui est cet enseignant qui est en toi, te dit, regarde cette sainteté qui demandait tous ces sacrifices-là. Est-ce que tu es appelé toi aussi à cette sainteté-là? Est-ce que tu es consacré comme Israël devait être consacré à l'Éternel? Oui, je suis consacré à toi, Seigneur Jésus. Conduis-moi dans cette sainteté-là. Les prophètes avaient dit que le jour où ce cœur nouveau nous serait donné, nous n'aurions plus besoin d'enseignants comme dans l'Ancien Testament. Et donc, mon rôle à moi, ce n'est pas de vous convaincre de marcher avec Dieu, c'est simplement d'éclairer les passages des Écritures, parce que l'enseignant dont vous avez besoin est dans votre cœur, si vous êtes un enfant de Dieu. Et ces paroles que j'apporte, si elles sont conformes à la parole de Dieu, vont prendre vie dans votre cœur. Parce que Dieu va vous montrer comment ça s'applique dans votre vie. Et ça, c'est le style que Dieu veut créer en nous. Il ne se définit pas à vue humaine. Il n'y a pas de style chrétien, ça n'existe pas. Voyagez un peu, sortez, vous allez voir, ça n'existe pas. Allez voir d'autres familles d'église. Vous allez voir que dans une église, il y a une culture propre qui se développe à l'intérieur de l'église. Puis après un certain temps, il y a quelque chose de délicat, de dangereux dans tout ça, parce que tu as l'impression qu'il faut rentrer dans cette culture-là pour pouvoir être un chrétien. Et vous savez que c'est intentionnel si je prêche plus avec un veston, puis si des fois je fais des affaires qui dérangent, je le sais, on change les affaires. Ça n'existe pas, le style chrétien. C'est le style Jésus. Bon, il n'y avait pas de cravate, une petite cravate ce matin, okay. Si ça vous fait du bien. Il n'y avait pas de cravate. C'est le style Jésus, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans ses voies. La question que j'avais posée au début, c'est comment je l'ai formulée encore? Pour devenir chrétien ou parce que je suis chrétien? Et je pense que c'est une des implications pratiques de ce que les autres ont soulevé ici. Est-ce que tu vas essayer de rentrer dans un moule puis faire du ménage dans ta vie pour pouvoir adopter un style de vie qui serait conforme soit à la loi de l'Ancien Testament, soit à ce que ça a de l'air un bon chrétien? Puis alors, tu vas pouvoir devenir chrétien, c'est impossible. Ça, c'est toutes les religions du monde qui t'offrent ça, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est parce que je suis chrétien, ma vie va être transformée. Mon style de vie va changer. J'ai plus les mêmes passions. J'ai appris à renoncer à des choses qui me passionnaient avant parce qu'elles étaient profondément malsaines, déshonoraient Dieu, déplaisaient au Dieu, détruisaient ma propre vie. C'est vrai, mon style de vie change. Mais c'est parce que je suis chrétien que mon style de vie change. Parce que Dieu m'a choisi avant que j'aie du style à ses yeux. Acte 15, versets 10 et 11. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? On va revenir là-dessus dans deux semaines. Pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir, Jésus, parce que tu avais promis que tu bâtirais ton Église et que tu veillerais sur ton Église. Et à ce moment charnière dans le livre des Actes, tu as été là, Seigneur, et par ton esprit, tu as parlé à travers les enseignants, à travers les anciens, à travers l'Église, Seigneur, qui a eu jugé bon de renoncer à ce retour en arrière qui ramenait la loi quelque part comme un égal de l'Évangile. Et tu as été là, Seigneur Jésus, tu as présidé cette assemblée, tu as conduit cette assemblée afin de préserver ton œuvre à la croix, Christ. Afin que l'Évangile soit limpide et clair. Aucun homme ne peut racheter sa vie par son style de vie en observant quelque loi que ce soit. Et Seigneur, je confesse qu'avant que tu viennes à moi, ma vie n'avait aucun style pour te plaire. Et que ce n'est pas parce que tu as trouvé en moi quelque chose de beau et d'agréable que tu m'as fait entendre l'Évangile. Mais tu m'as fait entendre l'Évangile parce que tu m'as aimé dans mon péché et j'ai cru parce que tu m'avais fait comprendre l'Évangile, Seigneur. Je prie, Père, pour cette Église. Je prie pour nos enfants, Seigneur. Je te prie pour nos conjoints qui ne te connaissent pas. Je te prie pour les visiteurs qui seraient ici ce matin et qui ne te connaîtraient pas personnellement, Seigneur Jésus. Viens te révéler à eux. Viens révéler la beauté de ton Évangile, de ta grâce, Seigneur. Viens et ouvre la porte de leur cœur afin que ton Évangile vienne et pénètre, Seigneur, et que tu leur donnes un cœur nouveau, un cœur purifié de tout péché, afin qu'ils puissent marcher à ton image, Jésus, et si c'est possible, adopter ce style de vie qui est celui d'un disciple de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen.